Bonsoir à toutes et à tous. Un témoignage jugé accablant. Les auditions pour la procédure de destitution du président Donald Trump se poursuivent en ce moment même. Et ces auditions sont désormais publiques. Elles sont retransmises en direct à la télévision. Ce sont donc les Américains eux-mêmes qui vont pouvoir désormais se faire une opinion sur la culpabilité ou non de leur président, alors que le camp démocrate l'accuse désormais de corruption. Que nous apprennent ces auditions? Comment les Américains jugent-ils ce grand déballage public? Donald Trump peut-il tenir? Cette affaire peut-elle faire basculer l'opinion publique américaine à un an des élections? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Révélation, témoignage, Trump dans les cordes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Negaroff, historien spécialisé des États-Unis, chroniqueur sur France Info. Et je précise que l'on peut vous retrouver au théâtre de la Tour Eiffel. Ce sera le 2 décembre prochain pour « Il ne mérite pas tes larmes ». Au sujet, c'est basé sur votre livre « Little Rock, 1957 ». Anne Desine, vous êtes juriste et politologue, spécialiste des États-Unis, professeur émérite à Paris-Nanterre et auteur de ce nouveau livre « Les États-Unis et la démocratie, c'est chez l'Harmattan ». Laure Mandeville, vous êtes grand reporter au Figaro, en charge de la page hebdomadaire « Débat d'idées autour du monde ». Vous contribuez également au mensuel « The American Interest » et vous êtes l'auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?» aux éditions des Équateurs Le Figaro. Et enfin, Lauric Henton, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin, auteur de « La fin du rêve américain » chez Odile Jacob, ainsi que votre atlas historique des États-Unis aux éditions Autrement. Thomas Negaroff, avant même d'entrer dans le studio, vous étiez en train de regarder la télé américaine parce que le feuilleton, on va révéler les petits secrets, le feuilleton se poursuit en ce moment. Il y a en ce moment même, là, pendant qu'on parle, l'audition de l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Alors on disait que c'était un témoignage attendu. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que c'est gênant pour le président américain? Est-ce que vous pouvez nous recadrer l'enjeu un petit peu de ces auditions qui se passent à ces jours-ci là?
Alors c'est la troisième audition publique. Il y a déjà eu deux fonctionnaires du département d'État en début de semaine, enfin mercredi. Et aujourd'hui effectivement, Maria Jovanovic, qui est l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine et qui a été débarquée en mai dernier. Donc c'est une ambassadrice de très haut niveau qui a une très longue carrière. Elle a comme toujours développé son pédigré. C'est un grand classique aux auditions. D'abord on dit à quel point ce témoin est important pour l'enquête. Et c'est un témoignage extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qu'elle est en train de nous dire, de nous raconter, on le savait déjà parce que tous les gens qui passent maintenant à la télévision avaient déjà été auditionnés, mais c'était secret. Enfin, secret. On avait les transcriptions, mais ce n'était pas aussi impressionnant que quand on les entend parler. Et surtout, là, ils répondent à des questions qu'on voit. Donc, c'est très impressionnant. C'est un moment très télégénique. Et ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle a été débarquée non pas parce que, comme le prétendait l'administration Trump, elle était trop tendre avec la lutte anticorruption ou qu'elle n'enquêtait pas suffisamment sur le clan Clinton, mais au contraire, elle dit « Moi, j'ai beaucoup travaillé pour lutter contre la corruption ». C'est d'ailleurs sa grande image de marque. Elle est connue pour être une fonctionnaire très, 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 très droite dans sa morale et qui a beaucoup œuvré contre la corruption. Et au contraire, elle montre qu'elle a été l'objet d'une attaque en règle de la part de Rudy Giuliani, qui est l'avocat personnel du président Trump, de quelques-uns de ses alliés en Ukraine qui ont tout fait pour la dégommer en lançant des fausses pistes sur elle, des rumeurs, etc., vraiment tentant de la dégrader jusqu'à ce que, et c'est ce qu'elle racontait tout à l'heure, mais là c'est un film américain, elle dit « J'étais là et tout d'un coup on me dit « Il faut que tu rentres aux États-Unis, c'est important pour ta sécurité ». Donc elle se dit « Mais est-ce que ma vie est en danger ? On peut pas te dire « Il faut que tu rentres ». Donc la fille, début mars, elle apprend ça, elle rentre aux États-Unis, l'ambassadrice, et elle va perdre son poste relativement rapidement après ça. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs, l'enquêteur Adam Schiff, démocrate, a passé des tweets de Trump de l'époque, où il montre que Donald Trump, à l'époque, dit du mal d'elle quand elle est en poste. Le fils de Donald Trump dit la même chose en disant « Cette ambassadrice, elle est très dangereuse, il y a des meilleurs ambassadeurs aux États-Unis, quelle catastrophe, etc. » Et ce qui est le moment clé de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est en direct. Pendant que l'ambassadrice est en train de parler, vous avez Trump qui tweet.
Qui tweet en disant que partout où elle est passée, les choses ont mal tourné. Ouais. Alors du coup, les gens disent, on cherche le directeur qui mène l'enquête, dit on cherche à intimider le témoin.
Non, c'est impressionnant, il lui dit, vous êtes au courant qu'en ce moment, Donald Trump est en train de tweeter sur vous? Elle perd un peu ses moyens, elle dit, mais c'est-à-dire que je ne sais pas, je suis un peu inquiète. Et lui dit, rassurez-vous, on prend très au sérieux les tentatives d'intimidation sur un témoin. Parce que ce que Adam Schiff, le démocrate, veut faire passer comme idée, c'est que le président américain envoie un signal, comme dans les grands films de mafia, pas à elle, mais à ceux qui vont témoigner après, ne témoignez pas contre le président américain, sinon vous allez avoir un retour de bâton très violent. Ça, je ne sais pas si c'est ce qu'avait en tête Donald Trump, mais c'est l'usage politique qu'en font les démocrates. C'était un moment effectivement extrêmement impressionnant.
Anne Désine, en fait, on se rend compte que c'est le procès du style Trump qui gouverne par intimidation, qui ne respecte pas les procédures, qui veut faire des deals à chaque fois, y compris avec un président d'une puissance étrangère, en disant « tu m'enquêtes sur un tel, et en échange, je te débloque une aide du Congrès ».
Oui, c'est bien ce qui ressort des trois auditions. Donc l'ambassadeur Taylor, mercredi, un cadre élevé, l'assistant du ministre en charge de l'Europe de l'Est, qui se sont exprimés comme des diplomates, avec beaucoup de tact, beaucoup de classe, etc. Et en face, il y avait l'hystérie des républicains qui posaient les questions. Et ce qui ressort là d'aujourd'hui, donc l'ambassadrice qui a été, oui, rappelée à Washington à la suite d'une campagne de dénigrement, c'est que, et c'est intéressant parce que les démocrates, c'est montré que Trump c'est un mafieux et qu'il utilise en politique et en politique étrangère des méthodes de mafieux. Ce qu'il dit à l'Ukraine, grosso modo, c'est ce que dit à la mafia un restaurant, vous voulez être protégé, vous versez tant. Là, il dit à l'Ukraine, vous voulez votre aide militaire, il faut verser tant. Et lorsque les gens ne se plient pas, et là en l'occurrence, effectivement, l'ambassadrice était connue pour son expertise dans la lutte anticorruption, pour essayer d'aider l'Ukraine à se mettre en règle de façon à ce que les États-Unis puissent verser l'aide en sachant que l'argent serait utilisé de façon appropriée. Et bien, comme elle ne s'est pas pliée, elle a été l'objet de cette campagne de dénigrement. Et donc, les démocrates ont compris, ils ont abandonné le mot latin dont on parlait jusqu'ici, le fameux quid pro quo, quelque chose en échange de quelque chose, parce qu'ils se disent que peut-être ça n'accrochera pas dans l'opinion publique. Et ils utilisent maintenant le premier terme qui est dans la Constitution comme étant passible d'une mise en accusation, c'est-à-dire bribery, le pot de vin.
Ils n'utilisent pas corruption. Corruption. Avant, oui. ils accusaient le président américain de quelque chose d'assez compliqué. Alors, surtout pour nous, Européens, c'est le quid pro quo, parce qu'en nous, ça ne veut pas dire la même chose.
C'est un échange de bons procédés.
Un échange de bons procédés,
etc. Donnant-donnant du côté américain.
Et maintenant, on dit le mot corruption, ce alors, qui en fait, est beaucoup plus frappant.
Oui. Mais ils utilisent le mot bribery aussi, parce que la Constitution dit bribery, corruption. Corruption, c'est plus abstrait, plus conceptuel. Bribery, on visualise tout de suite ce qui se passe.
Quand on est anglophone, hein. En français, c'est la corruption aggravée, quoi.
C'est bribery, c'est concret. On voit le passage, je donne quelque chose et j'attends quelque chose. Et ça, peut-être, parce que l'abus de pouvoir, c'est compliqué aussi.
On va revenir pour savoir donc jusqu'à quel point ces attaques et le mot bribery peut amener à une destitution, à un impeachment. D'abord, Laure Mandeville, ce dont on se rend compte, c'est que cette ancienne ambassadrice a été limogée. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, en fait, ce que je veux dire, Donald Trump, en limogeant des anciens fonctionnaires, des anciens conseillers comme John Bolton. Et tous ces gens, ensuite, viennent témoigner. On peut comprendre qu'ils nourrissent du ressentiment à l'égard de Donald Trump, non ?
Ben ça, c'est sûr, mais il y a eu un article qui m'a paru extrêmement intéressant de Daniel Lippmann, d'un Politico, il y a deux jours, sur la manière dont fonctionne Donald Trump et qui n'a jamais changé. Et moi, depuis que je viens sur ce plateau, depuis qu'il a été élu, ça va faire 3 ans bientôt, c'est à peu près, à chaque fois, on répète les mêmes choses, et on dort tous les deux d'ailleurs, beaucoup, c'est que Donald Trump se comporte aujourd'hui dans sa bataille contre ses diplomates, contre les démocrates, contre Adam Schiff, le président de la Commission, du renseignement, du Congrès, etc., comme il s'est toujours comporté à New York, c'est-à-dire, effectivement, comme un homme qui vient du business de l'immobilier et qui fait des deals en malmenant ses adversaires, en leur proposant soit des pots de vin, comme vous dites, ou tout simplement du donnant. Moi, je veux ça, toi, tu veux quoi ? Donc, ouais. Et on se met d'accord. Et en fait, qui a transposé absolument ce mode de fonctionnement dans la manière dont il gère à la fois ses relations avec le Congrès, ses relations avec ses adversaires, avec les membres de l'ennemi, avec les dirigeants étrangers. Et donc, pour lui, il n'arrive pas à comprendre, puisqu'il a toujours fonctionné comme ça, pourquoi on lui dit que sa fameuse conversation qu'il estime avoir été perfect, c'est-à-dire parfaite, avec le président Zelensky, est critiquée aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'a fait qu'appliquer cette même méthode en lui disant moi, je suis tout à fait disposé vis-à-vis de l'Ukraine, mais j'ai besoin d'une faveur. Et donc, on peut dire, si vous faites une lecture démocrate à charge, vous direz, c'est de la corruption, c'est, comme vous dites, bribery des pots de vin, mais le président dit non, c'est une faveur, comme on peut en demander à des chefs d'État. Tout cela est un montage des démocrates. Et c'est vrai que l'un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est de mesurer jusqu'à quel point l'opinion va marcher dans la mise en scène qui est celle des démocrates. Vous parliez d'une mise en scène, il y a quand même un côté
On va revenir, parce que vous soulevez des tas de questions. Justement, Loric Henton, est-ce qu'on sait si l'opinion publique s'intéresse à cette affaire, surtout maintenant qu'elle passe à la télévision? Et est-ce qu'elle commence à prendre fait et cause? Est-ce qu'elle s'interroge? Il paraît qu'il y a certains bars proposent le matin des cocktails pour l'impeachment day, là, pour suivre, diffuse en direct les témoignages, et vous propose un cocktail sur l'impeachment.
Alors ça dépend aussi beaucoup de la géographie et de la sociologie. À Washington DC, où on a 90%, 95% de démocrates et où tout le monde vit politique 24 heures sur 24 au minimum, oui, là on va avoir des nerds qui sont à fond dedans tout le temps. Dans des coins un peu plus reculés, surtout quand on parle de quid pro quo, etc. Bon, c'est beaucoup plus abstrait. Tout ça est une vague tentative des démocrates qui n'ont pas digéré 2016. Donc, c'est très loin. Surtout que c'était encore assez abstrait, les auditions qui étaient dans les sous-sols, etc. Ça ne parlait pas beaucoup. Maintenant que ça passe à la télé, ça devient beaucoup plus incarné, ça devient beaucoup plus dramatique. Donc là, on va pouvoir mesurer un peu plus au jour le jour l'impact, pas forcément l'impact maintenant, aujourd'hui, demain, mais l'impact aussi du cumulé. De l'accumulation des témoignages. Ce n'est pas forcément un témoignage qui va tout changer, même si chaque témoignage a son importance intrinsèque, mais l'accumulation de ces témoignages et la façon dont ils font boule de neige aussi, parce qu'on a dit aussi que l'accusation démocrate ne tenait pas parce qu'elle dépendait essentiellement de témoignages indirects, des gens qui ont entendu qu'eux, et donc ça ne valait rien. Et donc, en fait, à partir du moment où ceux qui ont vraiment entendu, on va pouvoir les convoquer et ils vont pouvoir dire publiquement ce qu'ils ont entendu, à ce moment-là, l'accusation républicaine du « ouais, mais c'est juste des on-dit » ne tient plus.
On objective la portée de l'accusation, hein, c'est ça.
Oui, et puis il y a des choses très... qui sortent de façon inattendue. Ce qu'il est quand même ressorti, c'est qu'il y a un aide de l'ambassadeur Taylor qui a entendu une conversation privée entre l'ambassadeur Saunders, qui est aussi un hôtelier pas très net, qui avait versé $1 million à Trump, qui a dit « j'aimerais bien être ambassadeur en Europe ». Et Trump lui a dit « j'aimerais bien que vous occupiez de l'Ukraine ». Donc, une conversation entre Trump et ce monsieur, où Trump dit « bon alors, ça avance ces histoires d'enquête sur l'Ukraine ». Et donc, ce monsieur, il est en train d'être entendu, alors je ne sais plus s'il y en a un en ce moment à huis clos et un demain, ça doit être à huis clos cet après-midi, et l'autre demain, c'est très intéressant. Jusqu'ici, on n'avait pas la vérité sur le blocage du transfert des $400 million, puisque ça a été bloqué à la Maison-Blanche dans le bureau du budget.
Échange de l'enquête sur le fils de Joe Biden.
Tous les gens placés au niveau top du bureau du budget, refuse de témoigner. Sauf qu'un second couteau a dit « moi, je veux bien témoigner, il sera entendu demain ». Donc, il risque de se passer comme pour le Watergate. On commence les auditions en se disant « que va-t-il se passer ?» Et au fil des auditions, on découvre des petites choses qui peuvent faire boule de neige.
Alors, Donald Trump a-t-il abusé de son pouvoir? C'est la question donc, qui divise l'Amérique et qui est l'objet de cette enquête. Des millions de personnes ont donc suivi en direct les auditions menées par le Congrès. Et vous allez le voir, les témoignages semblent pour le moment accabler le président. Reportage de Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
C'est un visage qui fait trembler le camp Trump. Marie Yovanovitch, ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, témoigne en ce moment dans la procédure de destitution du président.
Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide?
Oui.
Donald Trump est accusé d'avoir retenu une aide financière à l'Ukraine si ce pays n'enquêtait pas sur le démocrate Joe Biden. Marie Yovanovitch, réputée pour sa lutte contre la corruption, a été limogée par Trump. Critiquée lors de la fameuse conversation téléphonique avec le président ukrainien.
Donald Trump a dit que j'étais une mauvaise nouvelle à un autre chef d'État. Donc j'étais... C'était un moment terrible. Une personne m'a vu lire la transcription et la couleur de mon visage a changé. C'était une réaction physique.
Alors Donald Trump a-t-il évincé la diplomate pour se protéger ? Le président a-t-il abusé de son pouvoir ? Il s'est toujours défendu et placé en victime d'une chasse aux sorcières, comme hier, en plein meeting.
J'ai un problème. C'est vraiment dur pour ma famille. Le mot destitution est salissant. C'est très injuste et difficile pour ma famille. Moi, ma vie est folle. La vie que je mène, vous ne trouvez pas qu'elle est amusante ? Mais pour ma famille, c'est très dur.
Une stratégie pour convaincre qu'il est visé par un complot. Alors que depuis deux jours, les auditions publiques dans la procédure de destitution se succèdent. À la barre depuis mercredi, de hauts fonctionnaires de l'administration Trump témoignent et accablent le président.
Je ne crois pas que les États-Unis devraient demander à d'autres pays d'engager des enquêtes ou des poursuites sélectives et politiques contre un opposant au pouvoir parce que des actions si ciblées portent atteinte à la loi, peu importe le pays.
Autre témoignage clé de William Taylor, diplomate respecté et vétéran de la guerre du Vietnam. Il confirme cette demande d'enquête contre Biden, formulée par Donald Trump.
Dans vos décennies de service militaire et diplomatique au service des États-Unis partout dans le monde, avez-vous déjà vu un exemple d'aide étrangère conditionnée sur un intérêt personnel ou politique du président des États-Unis ?
Non, Monsieur Goldman, je n'avais jamais vu ça. J'ai écrit qu'il serait dingue de geler une aide sécuritaire en échange d'aide pour une campagne politique intérieure aux États-Unis. C'est ce que je pensais. Et c'est ce que je pense toujours.
Des éléments à charge qui font les affaires de Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates.
Nous n'avons pas encore décidé si nous allions mettre le président en accusation. C'est ce à quoi sert l'enquête. Les commissions décideront quand ils auront ciblé les motifs d'accusation. Mais le président a admis ce qu'il a fait et dit que tout est parfait. Moi, je dis que c'est parfaitement scandaleux. C'est de la corruption.
Pour sa défense, Donald Trump a sorti ses porte-flingues. Notamment sa conseillère Kellyanne Conway. Elle est invitée sur toutes les chaînes de télé pour dénoncer un spectacle médiatique.
Ce qui compte, c'est que le boulot pour les citoyens de ce pays soit fait. Le Capitole derrière moi, ce n'est pas un décor de cinéma. C'est là où vos représentants travaillent pour vous, mesdames et messieurs. Ils gaspillent votre argent et leur temps.
Mais cette défense suffira-t-elle à faire remonter la cote de popularité de Donald Trump ? Selon de récents sondages, 54% des Américains désapprouvent leur président.
Alors, question téléspectateur, est-ce que ce ne sont pas surtout les médias qui veulent la peau de Donald Trump, Thomas Negaroff ? C'est vrai qu'on accuse les médias d'être très anti-Trump hein, aux États-Unis.
Pas tous les médias. Oui. Ça, c'est le discours de Trump, de considérer qu'il est, parce que outre le caractère que leur évoquait de l'homme d'affaires qui veut faire du win-win, il y a une autre caractéristique, c'est la victimisation permanente. Et la victimisation permanente de Trump, elle passe par la dénonciation des médias qui n'auraient jamais supporté son élection depuis 2016. Si je dis que ça dépend de quels médias on parle, on a vu là Kellyanne Conway chez Fox News, Fox News fait partie des médias qui ont le plus diffusé les dénigrements de l'ambassadrice qui est en train d'être auditionnée en ce moment et qui a Sean Hannity, pour ne pas le citer, qui est l'éminence grise, qui a au téléphone tous les jours Donald Trump. Sean Hannity, c'est un peu vous, mais à Fox News, hein, la star de Fox News. Il l'a au téléphone, ouais, c'est gentil.
France 5, c'est pas Fox News. Hein.
Non. Il l'a au téléphone régulièrement et c'est vraiment un personnage avec qui il gouverne d'une certaine manière. Eh bien, Sean Hannity a diffusé dans son émission et sur Twitter, avec un compte extrêmement suivi, des éléments à charge contre cette ambassadrice en disant qu'elle était catastrophique, qu'elle ne luttait pas correctement contre la corruption, entraînant son départ et aujourd'hui peut-être une forme de ressentiment de sa part, mais on voit d'où ça peut venir. Donc les médias, ça ne veut pas dire grand-chose, les médias, En l'occurrence, il y a effectivement des médias, je crois qu'ils ne sont pas absolument pro-Trump, ça, personne ne peut le nier. C'est clair que MSNBC, même CNN, hein, sont des médias ciblés en permanence par Trump. Mais de là à y voir une simple affaire médiatique, je ne crois pas, dans la mesure où les démocrates qui aujourd'hui prennent la parole ou les fonctionnaires qui viennent aujourd'hui témoigner contre les agissements de l'administration Trump ne sont pas des journalistes, ne sont pas des patrons de presse, ce sont des fonctionnaires qui trouvent que ce qui s'est passé est scandaleux.
En tous les cas, alors, comment faut-il lire ce sondage ? Souhaitez-vous la destitution de Donald Trump ? 48,5% des Américains disent oui et 45,7% disent non. Anne Desine.
L'opinion est divisée à 45-45. Il y a 45% qui sont pro-Trump et quoi qu'il se passe dans ces auditions, ils ne bougeront pas. Et 45% qui sont démocrates, qui depuis le jour 1 trouvent que ce n'est pas normal qu'il soit président. Donc on joue sur ce petit 10%. Et à cet égard, c'est important de voir ce qui va sortir des auditions, c'est important de voir si cette opinion publique du milieu, celle qui est susceptible d'évoluer, évolue, et si elle est suffisamment forte et aux bons endroits à cause du fédéralisme pour faire pression sur suffisamment de sénateurs pour que 20 sénateurs fassent défection et votent la mise en accusation.
Vous faites référence au fait qu'il y a 6 États où on sait que le vote sera crucial pour faire basculer d'un côté ou de l'autre.
Les 6 États, c'est surtout pour l'élection présidentielle, mais là, on sait que les petits États rouges, c'est-à-dire les États pro-Trump, ont une population peu nombreuse, si on compare à la Californie, par exemple, et à l'État de New York. Mais ils ont quand même 2 sénateurs. Et ces 2 sénateurs, pour le moment, ils sont rouges, super rouges.
Républicains.
Et donc, il faudrait que l'opinion publique bouge suffisamment dans ces États rouges pour que ces sénateurs voient que leur vie électorale est en danger s'ils ne votent pas la destitution. Nous n'en sommes pas là.
Oui, Laure Mandeville.
En fait, moi, la question que je me pose, c'est si quelqu'un qui a voté pour Donald Trump peut changer d'avis à cause de ce que Donald Trump a fait. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il a fait ? Je reviens à ce que je disais au début. Il a fait ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que l'électeur de Trump soit particulièrement choqué par la manière dont il s'est comporté. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le Watergate. Pour le coup, il s'agit de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé une faveur au président de l'Ukraine, ouvrez donc une enquête sur Burisma, qui a quand même apparemment des choses un peu bizarres dans son fonctionnement.
Sur le fils de son adversaire politique.
Et sur le fils de son adversaire politique. Donc il demande en gros, est-ce que vous pouvez faire la lumière, ouvrir une enquête pour savoir ce que faisait cette compagnie et évidemment, au sein de cette compagnie, le fils d'un de son principal opposant. Voilà. Donc ça c'est vrai. Mais est-ce que l'électeur de Trump ne considérera pas que, ah bon, est-ce que c'est vraiment de faire pression, enfin de demander à un président qui loue cette enquête, après tout on voit après si cette enquête elle donne quelque chose, mais est-ce que c'est pas justifié dans la mesure où lui-même s'est retrouvé, où il y a eu toutes les histoires de déstabilisation des uns des autres pendant la campagne, donc est-ce que Trump peut pas dire j'ai pensé qu'il fallait en savoir plus sur ce qu'avait fait, en informer mon électorat.
Alors, on va pas faire ici le procès sur la culpabilité ou non de Donald Trump vis-à-vis de cette procédure.
Oui, simplement, la question que je me pose, c'est
comment l'électorat de Trump juge-t-il cette affaire ?
Allez, on va pas faire la... Mais instinctivement, j'ai le sentiment que ça ne fera pas bouger les choses. C'est que vous disiez, est-ce que ça peut faire basculer des sénateurs ? Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que les sénateurs prendront fait et cause pour Trump.
Thomas Stegaroff, comment est-ce que les républicains... Quelle est sa défense de Donald Trump vis-à-vis de cette attaque ? Quand les démocrates l'accusent de corruption, comment réagit-il ? Quelle est sa stratégie de défense ?
Il en a deux. La première, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, c'est de dire « Je n'ai rien à me reprocher et je vais moi-même diffuser la transcription complète et intégrale, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure en dessous en bandeau, avant le week-end, avec le président ukrainien. Ça n'a toujours pas été diffusé, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est dit. Donc, d'un côté, une forme de déni, et d'un autre côté, comme toujours avec lui, une politisation de la chose. Je suis victime d'une chasse aux sorcières par des adversaires qui ne pourront jamais me battre à la régulière en 2020 et qui donc n'ont trouvé que ce seul moyen pour me vaincre. Voilà comment à peu près il se défend, avec en plus cette volonté d'offrir un récit alternatif à ce qui s'est passé, donc à submerger les réseaux de son propre discours, de « c'est une chasse aux sorcières », « il m'empêche de travailler », on l'a vu tout à l'heure, qu'Elan Conway qui dit « regardez derrière moi, il y a le Capitole », il ne bosse pas pendant ce temps-là. L'idée en plus, et ça c'est Truman qui l'a inventé il y a bien longtemps après la Seconde Guerre mondiale pour une victoire électorale extraordinaire en 1948, il avait attaqué les adversaires qui ne travaillaient pas. The Do Nothing Congress, le congrès qui ne travaille pas. Et ça, c'est un truc qu'il va utiliser, je peux vous dire, qu'il va l'utiliser pendant la campagne électorale. Ce congrès ne travaille pas, sinon à m'abattre. Il ne travaille pas pour les Américains, mais les démocrates vont dire la même chose. Trump ne travaille pas pour les Américains, donc ça va être un match de narration, deux narrations qui vont s'affronter sur le même thème.
Laurie Kenton, je reviens sur le style Trump, hein, qui attaque avec des tweets, qui, on le voit, a des formules très percutantes, à la limite de un peu outrancier par moment. Mais est-ce que ça choque ou est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas l'une des clés de son succès auprès de son électorat?
Auprès de son électorat, faire le show, quoi. Bien sûr, auprès de son électorat, c'est ce que son électorat plébiscite. C'est pour ça qu'ils l'ont élu, parce qu'il cogne, parce qu'il n'est pas comme ces gens de Washington qui sont policés, etc. Lui, c'est un petit peu l'électron libre qui est contre le politiquement correct, qui dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Un président ne devrait pas dire ça. Là, il y a une version américaine qui est assez légendaire et il est là pour ça. Et ses électeurs se retrouvent là-dedans. Après, il y a tous ceux qui ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Clinton et qui pourraient très bien se dire, il y a qui maintenant en face? Je ne sais plus Clinton, c'est qui, et je pourrais peut-être revenir vers là. Donc il y a cette petite marge de pas forcément fan absolu qui pourrait faire défection. Mais la base trumpiste, foxiste, entre guillemets, elle adore. Plus il y va, plus...
Et justement, Anne Désine, est-ce qu'on va avoir une campagne de plus en plus outrancière qui s'annonce? Je vois que les premiers clips de campagne des Républicains pour attaquer les démocrates consistent à dire que ce sont des idéologues soviétiques, on les compare même à Staline.
Oui, mais la partie de discours...
On n'a rien vu encore.
...du Républicain Nunes, puisque la façon dont c'est organisé, c'est pas mal. C'est-à-dire que le président de la Chambre... de la commission sur le renseignement se donne un temps de parole et ensuite le Républicain, qui est Nunes, très très partisan, a le même temps de parole. Il n'a absolument pas parlé de corruption. Il a justement reproché au Congrès de ne pas pouvoir travailler à cause des démocrates, de ne pas voter le budget, etc., à cause de cette enquête sur la mise en accusation qui utilise tout l'espace médiatique, toutes les ressources du Congrès. Et puis, il a attaqué, là encore, les médias qui sont mensongers, les démocrates qui ont une fixation depuis le jour de l'élection parce qu'ils ne peuvent pas accepter la défaite, etc. Et il disait, et c'est une partie du discours républicain, ils ont une fixation sur la Russie, puis maintenant, c'est l'Ukraine, c'est le pot de vin, ils disent n'importe quoi, c'est juste qui sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas gagner à la régulière.
Et surtout, comme il y a eu tout l'épisode Mueller, le rapport Mueller, qui a fini par se dégonfler parce qu'on allait voir ce qu'on allait voir, puis finalement, on n'a pas vu grand-chose, les auditions, etc. Là, en gros, ce qu'ils disent, c'est la même chose. C'est-à-dire que Mueller, on allait voir ce qu'on allait voir, et là, l'impeachment, on va voir ce qu'on va voir.
C'est-à-dire c'est le risque de Normandville.
Oui, d'autant qu'Adam Schiff, qui est la principale tête de turc de Donald Trump, qui mène l'enquête aujourd'hui, était celui qui promettait qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec le rapport Mueller.
Donc, pour s'il n'y a pas grand-chose, on va accuser les démocrates de simplement être revanchards.
Absolument.
Alors, il faut absolument avoir des éléments concrets qui justifient cette enquête.
Ça, parce que moi, je pense qu'il n'y avait pas rien du tout dans le rapport Mueller. Hein. En revanche, c'est la narration. Je disais que c'était deux narrations. À la fin, quand on ne peut pas dire qu'il y a 100% de certitude que Trump a été mouillé avec la Russie, il l'est innocenté. Et lui, en disant... Innocence, c'était donc une chasse aux sorcières. Ce qui va se passer à la fin de l'impeachment, c'est pour ça que Nancy Pelosi ne voulait pas lancer l'enquête, c'est qu'à la fin, au Sénat, il y a peu de chances que le Sénat vote le départ de Donald Trump. Je rappelle qu'il faut les deux tiers des sénateurs.
Et qu'il est républicain.
Et qu'il est républicain pour 53-47, donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait 66 sénateurs pour qu'il s'en aille. Et donc à la fin, je peux vous dire que le président Trump va venir en disant « Je suis donc lavé, blanchi, c'était donc une chasse aux sorcières ». Que de temps perdu pour l'Amérique.
Alors, la bataille pour 2020 s'annonce donc acharnée. Elle se joue aussi dans les facs américaines. Traditionnellement démocrates, les campus universitaires voient fleurir des associations d'étudiants républicains, pro-Trump. Turning Point USA, c'est la plus puissante d'entre elles. Elle est particulièrement active. Reportage dans le Minnesota de Pierre-Minet Bellando et Stéphane Lopez.
Ce jour-là, à l'université de Duluth, tout au nord des États-Unis, Trevor Towson est de corvée affichage. On essaie de faire ça toutes les semaines, mais les affiches ne durent pas. Elles se font arracher en un ou deux jours. Trevor est un ultra-conservateur. anti-avortement, anti-immigration et pro-Donald Trump. Une personnalité à contre-courant sur un campus américain. Vous savez, c'est cool de s'attaquer aux conservateurs et de les charrier, de se moquer d'eux, comme on se moque des chrétiens, par exemple. Notre société change et c'est devenu un combat. Moi, ça ne me fait pas peur. J'aime débattre. Mais quand l'administration de l'université, les profs, les autres élèves des organisations étudiantes nous agressent, ça devient oppressant.
À 20 ans, Trevor est à la tête du bureau local de Turning Point USA, une association qui prêche la parole conservatrice dans tout le pays.
Hey guys.
Salut les gars. Encore une journée au stand.
Leurs idées sont affichées aux yeux de tous.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On a tout sorti. Il y a notre J'aime l'Amérique, Vive la liberté, le socialisme, ça craint. Et le truc le plus important, c'est d'engager la discussion, débattre avec les gens, des gros sujets.
Avec son arsenal de slogans, Trevor est là pour recruter.
On se voit tous les mardis soirs. Tu peux venir et débattre avec d'autres étudiants, confronter vos idées et voir quel est ton projet si tu veux t'impliquer au niveau politique. Il y a pas mal d'opportunités au sein de Turning Point.
Sauf que Turning Point USA n'est pas une association comme les autres. C'est une machine de guerre, présente dans plus de 600 lieux d'éducation aux États-Unis, financée par des millionnaires républicains. Sur le papier, indépendante de tout parti ou candidat. Mais Donald Trump en a fait son outil de campagne. En juillet dernier, il a même accueilli ses membres à la Maison-Blanche.
C'est votre tour d'inspirer l'Amérique, de choisir la grandeur pour notre pays.
À l'université de Duluth, l'Association des jeunes démocrates se réunit dans la cafétéria. Hier encore, ils manifestaient contre Donald Trump. Des violences avaient même éclaté avec des partisans du président américain.
On ne peut pas nier l'importance des émotions. Et il y a vraiment une haine bien présente contre ceux qui ont voté Trump.
Moi, je ne suis pas une personne violente. Je suis plutôt du style à dire « Allez, adieu les nazis », plutôt que de leur taper dans la figure.
Eux n'ont pas de stand. Ils disent avoir moins de moyens que Turning Point.
On fait du porte-à-porte. On va dans chaque dortoir pour parler à tout le monde. La majorité est très réceptive. Je pense que nous sommes la majorité. Mais eux, ils font plus de bruit. Et c'est une stratégie de leur part. Ils sont là, au vu de chacun, hyper présents, en provoquant tout le monde.
En 2016, côté démocrate, beaucoup de jeunes ne s'étaient pas déplacés pour Hillary Clinton. Ce vote-là sera l'une des clés pour 2020.
D'une part, si les jeunes se sont inspirés et votent en grand nombre, ils pourraient avoir un impact énorme sur l'élection de 2020, parce qu'ils veulent du changement. Mais d'un autre côté, pour inspirer ces jeunes-là, le Parti démocrate et ses candidats vont devoir trouver un moyen de faire sortir les jeunes de leur cynisme et leur scepticisme à l'égard de la politique traditionnelle.
Avant le scrutin national, séduire la jeunesse sera l'une des clés pour remporter la primaire démocrate. Et selon de récents sondages, Bernie Sanders serait le candidat privilégié des 18-29 ans.
Alors, question téléspectateur, est-ce que l'Américain moyen regarde les auditions ou ou est-ce que ce sont d'autres motivations qui poussent par exemple ces jeunes à soutenir ouvertement Donald Trump ?
Alors, contrairement à 1974, il y a peu d'Américains qui regardent les auditions. Le chiffre qu'on échangeait, c'est 13 millions. C'est très peu. Je pense que c'est dû au fait que tout le monde sait qu'on peut le regarder plus tard, qu'il y a des parties dans les réseaux sociaux. Mais cela veut dire, à la fin, que moins de personnes vont regarder. De toute façon, nous avons bien dit que peu seraient affectés, sauf surprise spectaculaire, par les auditions. Alors, ces étudiants, c'est intéressant. En plus, le Minnesota, c'est plutôt un État à gauche. D'ailleurs, la sénatrice Klobuchar, qui est candidate à la primaire démocrate, vient du Minnesota. Et on se demandait tous les deux si c'est pas... Alors, il y a l'argent des milliardaires. Il faudra revenir sur la force de frappe des républicains. Mais un petit quelque chose, c'est que c'est vrai que la plupart des facultés, y compris les facultés de droit aux États-Unis, sont à gauche. Et quand on est un peu conservateur, on se sent isolé. Donc il peut, je pense que Turning Point a construit sur ce sentiment d'isolement d'un certain nombre d'étudiants qui sont mal vus parce qu'ils votent à droite. Cela étant, là, c'est la machine de guerre des Républicains, c'est tout ce qu'on appelle le dark money, tout cet argent dont on ne connaît pas l'origine, les milliardaires le donnent à des super PAC, etc., et qui financent des causes, et même les organismes de public interest, d'intérêt public, qui enquêtent, ont du mal à remonter à la source pour savoir qui finance. Mais le résultat, c'est qu'ils sont très efficaces. Il y a une vraie machine.
Oui, il y a un ras-le-bol aussi, on dit, du politiquement correct, voilà. Peut-être, chez une frange de ces jeunes qui sont dans les universités.
C'est ce que je voulais rajouter à ce que vous dites sur l'isolement. Moi, je me suis beaucoup baladée sur les campus américains. Je peux vous dire que les campus, sur le plan idéologique, sont tellement partis à gauche, et je dirais même à l'extrême gauche du spectre politique, que vous avez des tas de gens qui sont une espèce de majorité silencieuse et qui sont terrorisés à l'idée d'exprimer leur point de vue. Et donc, vous avez eu véritablement une confiscation de la parole par l'extrême gauche, avec des mouvements presque violents, malheureusement, dont on voit quelques séquelles en France, qui arrivent en France, où on veut empêcher des speakers, parce qu'ils ne partagent pas votre avis, ou parce qu'ils sont situés à droite de l'échiquier politique, de parler. Vous avez des choses absolument incroyables sur des séquences totalement surréalistes, où des profs sont obligés d'endosser une espèce de petit catéchisme du politiquement correct, en se battant la coule, parce qu'ils sont, à cause de leur blanchité, parce qu'ils sont systémiquement racistes, parce qu'ils sont blancs, etc., etc. Et donc je pense qu'il y a un ras-le-bol et qu'il y a un certain nombre de jeunes conservateurs. Moi, j'en avais rencontré à Yale, qui disaient même à l'université de Yale, le free speech, ça devenait difficile. Et donc quand vous voyez les inscriptions free speech, je pense que c'est dû à ça et qu'il y a cette espèce de revers du bâton. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que majoritairement, les étudiants vont voter à droite.
Il y a une réaction épidermique. Évidemment. Laurie Kenton, est-ce que ce n'est pas l'un des mérites qu'on peut attribuer à Donald Trump que d'avoir réveillé le débat démocratique? Au fond, on parle politique. Là, vous voyez ce slogan, socialisme, on échange des idées, alors qu'avant, il était peut-être confisqué, comme on le disait.
Il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qu'on voit dans le sujet, qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit pas du tout des extrémistes de droite dire « Ah, l'immigration, c'est affreux. Venez débattre avec nous, même si on n'est pas d'accord. Venez débattre freedom of speech, etc. » Donc ça, c'est très constructif, c'est pourquoi pas. Ensuite, ce qui est intéressant, et on l'a bien vu avec les élections de mi-mandat de 2018, c'est que Trump, finalement, qu'on a accusé d'être un dictateur, un danger pour la démocratie, a été un formidable élan démocratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne votaient pas avant, qui ont voté démocrate en 2018, dans des proportions jamais vues pour des midterms qui n'intéressent généralement absolument personne. Et surtout, ce qu'on voit maintenant, grâce à Trump d'une certaine manière, ou à cause de Trump, c'est des gens qui se présentent aussi à des élections très locales, donc pas du tout sous les radars habituels, mais des gens qui disent « Moi, l'élection de Trump, ça m'a fait un électrochoc et j'ai décidé de me présenter à mon comté ou dans ma fac, etc. À des élections très locales. » Donc il y a une sorte de sursaut démocratique et démocrate à cause de Trump ou grâce à Trump.
Alors peut-être réveille-t-il la politique, mais n'abîme-t-il pas également, en tous les cas, la fonction présidentielle? Je dis ça parce qu'Adam Schiff, qui mène les enquêtes au Congrès sur la procédure d'impeachment, dit « Ces événements affecteront cette présidence, mais aussi l'avenir de la fonction ». Est-ce que Donald Trump, avec ce style un peu outrancier, ne risque-t-il pas d'abîmer durablement la fonction de président des États-Unis d'Amérique?
C'est en tout cas c'est ce que disent les démocrates. C'est pas ce que je dis moi, c'est ce que disent les démocrates. Et pour résumer un peu, c'est le grand paradoxe de Trump. Trump, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est le trumpisme, c'est une forme de court-termisme. Tout est à court terme. L'économie, le budget, la dette, peu importe, il faut que demain il y ait de la croissance. L'environnement, peu importe, il faut qu'il y ait de la croissance aujourd'hui, etc. Donc on est sur du court-termisme, mais avec des conséquences à très long terme. Et la question de la présidence et de la fonction présidentielle, effectivement, et je ne sais pas si elle est abîmée, mais elle est posée sous des standards différents avec Trump. Abîmée, c'est un jugement de valeur. Moi, je n'ai pas envie de le poser comme ça. En revanche, la fonction est bouleversée. C'est d'ailleurs comme ça que Nancy Pelosi a justifié le fait de finalement lancer la procédure en disant, en réalité, si on ne dit pas maintenant stop, on est, parce que vous savez, la Constitution, et là, j'ai en face de moi des spécialistes de la Constitution américaine, elle est extrêmement
vague.
D'accord. Et dans ce vague peut venir se clipser un président plus ou moins fort. Et en l'occurrence, ici, vous avez un président qui a tendance à considérer qu'il est un peu au-dessus des lois, qu'il peut imposer son agenda. Vous avez vu combien de fois il s'est fait retoquer par les cours. Donc il y a des contre-pouvoirs qui fonctionnent. Mais il y a quand même l'idée que ces contre-pouvoirs, ils fonctionnent de moins en moins à mesure que le président, il nomme des juges. Mmh. Et donc il y a l'idée qu'il y a peut-être un nouveau standard de la fonction présidentielle qui est en train de se poser avec Trump. Et c'est en cela que l'élection de Donald Trump et surtout son exercice du pouvoir peut avoir des conséquences à long terme. Ça répond un peu à votre question. Je ne dis pas abîmé. Mais je dis poser différemment la fonction présidentielle avec un président beaucoup plus fort. Et regardez à quel point Trump est fasciné par les présidents élus, mais très forts d'autres pays. Regardez Erdogan, mon meilleur ami, regardez les uns les autres. Il est fasciné par ce type d'exercice du pouvoir, par ce type de présidence. Et ce n'est pas étonnant qu'il embrasse lui-même dans son exercice ce type de présidence.
Anne Desine, Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Ça l'oblige vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de ses prédécesseurs et de ses successeurs.
Mais ça ne l'intéresse pas. Et à cet égard, il rend la tâche très facile aux démocrates qui, la main sur le cœur, jouent la carte de « nous avons prêté serment de défendre la Constitution et nous avons une responsabilité constitutionnelle ». Parce que, alors, qu'il détruise, qu'il affecte la fonction présidentielle, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il détruit le fonctionnement des institutions qui repose sur les checks and balances, les freins et contrepoids. Parce que plus la présidence grandit, plus elle prend de pouvoir, plus ça revient à une négation des pouvoirs du Congrès et plus c'est une négation des pouvoirs des juridictions. Et on l'a bien vu, il empiète à chaque fois.
Ce que je veux dire, c'est qu'avec ses tweets intempestifs, ne nuit-il pas à la crédibilité de la parole du président des États-Unis d'Amérique, qui est quand même la première puissance militaire au monde.
Oui, oui,
est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le maintien de la paix? J'en sais rien, mais...
Là, on anticipe sur ce qu'on voulait dire après. Bien sûr, ça nuit au rayonnement de la puissance américaine qui repose pas seulement sur le hard power, sur le militaire, mais sur le soft power. Et le soft power, c'est le rêve américain qu'il détruit par ses politiques. Et c'est cette espèce d'aura autour de la Constitution et des institutions, l'exceptionnalisme américain, exporter nos institutions parce qu'elles sont si bien. Sauf que nos institutions, il y a violation de la liberté de la presse, violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc c'est un petit peu difficile de se poser comme modèle au plan mondial quand on viole toutes les règles qu'on est censé exporter.
Autant prendre le modèle chinois, par exemple.
Par exemple. D'ailleurs, c'est bien parce que lui, il est à vie. D'ailleurs, ça fait très envie au président
Trump.
Voilà.
Laurie Kenton.
En même temps, Trump n'est pas éternel. Donc la principale destitution, c'est la destitution par les urnes. Il peut être destitué par les urnes dès 2020 par un président ou une présidente démocrate qui va avoir à cœur de restaurer la fonction présidentielle. Et de ce point
mais
de vue-là...
Mais il peut le faire d'un claquement de doigts. Non, on n'affaiblit pas durablement.
Quand on parle des perceptions, quand on regarde les perceptions à l'international de la présidence américaine, on voit une inversion de courbe absolument spectaculaire entre la présidence Bush et la présidence Obama. Il ne faut pas oublier que Bush était pas extrêmement populaire non plus à l'étranger et que quand Obama est devenu président, pouf, les États-Unis sont redevenus un modèle, quelque chose à suivre, quelque chose qu'on aimait alors que c'était vraiment pas du tout le cas sous Bush. Et on voit une inversion de courbe qui est spectaculaire. On passe de 20% d'opinion positive en gros sur des enquêtes globales à 70-80% dès le moment où Obama entre en fonction. Je pense qu'au moment où on passe de Trump à quelqu'un d'autre, on va avoir le même type d'inversion de cours, parce que c'est déjà arrivé.
L'image de l'Amérique dans le monde, quand même, c'est quelque chose de très fort, le rêve américain. Ça repose sur... c'est souvent incarné par le président. Oui. Est-ce que les touristes, on les sent un peu mal à l'aise, les touristes américains qu'on voit à Paris ou en France, et au bout de deux minutes, ils disent « on ne me parle pas de Trump ».
Oui, mais alors si on parle du point de vue des Américains, Donald Trump a fait toute sa campagne en disant « on était faibles, séduisants, mais faibles ouais. avec Barack Obama ». Avec moi, on sera peut-être un peu moins séduisant. Je ne jouerai pas cette carte-là, mais on sera fort et on sera respecté. Donc tout dépend, encore une fois, de qui pousse ce discours-là. Mais vous avez raison, dans le monde, et Loïc le rappelait justement, c'est en permanence des allers-retours. En général, le monde préfère les présidents démocrates aux présidents républicains. Ça, c'est une règle à peu près régulière. On a adoré Clinton, les opinions publiques occidentales ont adoré les uns les autres. Et ça se retourne. Mais du point de vue des Américains, c'est pas une évidence absolue. Hein.
Laure Mandeville, le soft power américain n'est pas abîmé par la présidence Trump ?
Peut-être un peu quand même. C'est-à-dire, moi, ce que je pense, c'est que les cartes sont brouillées. Moi, ce qui caractérise notre époque, je pense, et Trump en est finalement un des représentants, peut-être l'incarnation la plus exagérée, mais tout de même pertinente, c'est que notre monde est un monde où tout est brouillé. Les frontières, les codes de conduite, les relations entre les alliés, qui est ennemi, qui est ami. Donc en fait, de ce point de vue-là, il a il a accéléré ce processus, puisqu'il dit que Poutine est son meilleur ami et il traite le président Macron d'imbécile. Le lendemain, il dit que Macron est son meilleur ami et que Poutine est dangereux, etc. Donc en fait, il y a une espèce de confusion à laquelle il contribue. Et je pense que c'est malgré tout assez dangereux quand on est la première puissance du monde. Pourquoi ? Parce que les autres en profitent. Il y a des vides qui se font. Alors tout le monde parle aujourd'hui beaucoup du comportement de Trump dans politique étrangère, par exemple au Moyen-Orient, en disant que le fait qu'il ait décidé du jour au lendemain, sans même consulter personne, qu'ils allaient quitter le nord de la Syrie, ça a provoqué un vide énorme. Mais on peut le dire aussi dans le domaine, je dirais, de la psychologie des pays ou des nations. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on constate qu'en Europe, il y a un vrai doute sur ce que va être la puissance américaine. Demain, ce soft power et ce hard power sera-t-il présent parmi nous ? On voit que le doute est énorme. Vous avez le président français qui dit que l'OTAN est en mort cérébrale. Vous avez le ministre de la Culture tchèque que j'ai rencontré il y a deux jours, qui pourtant est d'un pays d'Europe centrale très attaché à la relation avec les États-Unis, qui disait c'est vrai qu'on se demande combien de temps les États-Unis seront encore la puissance
et parapluie. Et seront là pour nous aider en cas de pépin.
Exactement. Et donc tout ça, quand même, je pense, entame le crédit, je dirais, ronge un peu le crédit des États-Unis. Alors, c'est peut-être aussi réversible. On est dans un monde aussi de réversibilité, d'aller-retour, de confusion, je pense.
Mais de ce point de vue, l'élection de 2020 sera importante, parce que si c'est 8 ans de Trump, c'est pas pareil que si c'est 4 ans de
Trump.
C'est
tout à fait juste. Oui.
Alors, le camp démocrate le sait, hein, pour battre Donald Trump, il faudra bien plus que les scandales. Il se cherche donc un champion, ou plutôt une championne, car à en croire les derniers sondages, la très à gauche sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a créé la surprise ces dernières semaines en s'imposant comme la grande favorite. Victoria Rouxel et Erwan Ilion.
Dernière formalité pour Elizabeth Warren. Mercredi, la candidate démocrate en campagne depuis déjà plusieurs mois a officialisé son inscription à la primaire du parti. À 70 ans, la sénatrice du Massachusetts sillonne le pays et enchaîne les meetings à la rencontre des Américains, toujours avec la même énergie. 2020, we can dream big. Voir les choses en grand, le mot d'ordre d'une candidate au programme ambitieux, notamment au sujet des questions sociales.
Je mène une campagne fondée sur une vie de lutte pour les familles de travailleurs. Je mène une campagne avec le cœur.
Parmi ses propositions, effacer une partie de la dette étudiante et rendre l'université gratuite. Augmenter le salaire horaire minimum, mais aussi mettre en place une assurance maladie universelle gérée par l'État.
J'ai un plan. Nous pouvons avoir une assurance santé d'État pour tous, sans avoir à augmenter d'un seul centime l'impôt des classes moyennes. Ce système sera entièrement financé par les 1% les plus riches et les très grandes entreprises.
It's time for a wealth tax in America. Une taxe annuelle de 2% sur les plus grandes fortunes du pays. Sa solution pour financer un projet chiffré à plusieurs dizaines de milliards de dollars. La proposition a fait réagir, notamment le multimilliardaire Bill Gates.
J'ai payé plus de 10 milliards de dollars d'impôts. Plus que n'importe qui. Et je suis d'accord avec ça, même si je devais payer 20 milliards de dollars. Mais si vous me dites que je dois payer 100 milliards de dollars, alors là, je vais commencer à faire mes comptes pour voir combien il me restera. Pardon, je plaisante.
Une plaisanterie qui révèle l'inquiétude des grands patrons américains. L'autre cible d'Elizabeth Warren, ce sont les géants du numérique, Amazon, Google et Facebook. It's time to break up these big companies so they don't have so much power over everyone else. I've got a plan to protect consumers and competition. And if you agree that we should do this, join me. Des arguments chocs qui résonnent dans un récent sondage. À l'aube de la primaire démocrate, Elizabeth Warren est au coude à coude avec Joe Biden devant Bernie Sanders. Une cote de popularité qui n'a pas échappé au principal intéressé, Donald Trump, toujours très fier du surnom dont il affuble la démocrate. Elizabeth Warren avait mis en avant ses origines amérindiennes.
Pocahontas renaît de ses cendres. Je pensais qu'elle avait disparu. On n'a pourtant pas été tendre avec elle. Alors elle a du mérite, elle renaît de ses cendres. Mais ce n'est pas une bonne personne. Moins d'un millième de sang amérindien. J'en ai plus qu'elle, alors que je n'en ai même pas. Je n'ai pas de sang amérindien. Et pourtant, j'en ai plus qu'elle.
La très à gauche Elizabeth Warren bouscule donc la campagne, quitte à perturber l'establishment de son propre parti. Pour tenter de contrer son ascension, le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg pourrait bien devenir le 19e démocrate à se lancer dans la bataille de la primaire.
Alors, question téléspectateur. Les démocrates, en établissant un ISF, donc un impôt sur la fortune, ont-ils une chance de gagner ? Thomas Negaroff.
Alors d'abord, il faut rappeler que cet ISF, il est très inspiré par nous. Parce que c'est deux économistes français, Seth Zuckman.
On va voir leurs photos.
Voilà, voilà. Qui sont très écoutés par Bernie Sanders et par Elizabeth Warren, Thomas Piketty aussi, évidemment. Mais c'est eux, hein, ces jeunes chercheurs qui ont influencé ce programme parce qu'en fait, il faut trouver des dizaines de milliers de milliards de dollars pour financer un système de santé à l'européenne. Ça va coûter extrêmement cher, universel. On dit 3 000 milliards par an. Enfin bref, il faudra trouver de l'argent. Et donc l'argent, ben, en taxant les plus riches. Alors, c'est intéressant parce que nous, on entend ISF, on pense à nous. Bon, chez nous, vous avez environ 2% des ménages qui sont frappés de l'ISF. Aux États-Unis, c'est quand même au-dessus de 50 millions de dollars de revenus. Donc, c'est quand même pas... Hein, c'est plus que chez nous. Hein, 50 millions.
Nous, c'était 1,3
million. Ouais, donc 50 millions, c'est un peu plus. Et ça concerne 0,1% des Américains. Donc, on est en train de faire... Et donc, on est en train de se dire...
C'est-à-dire qu'il est bien plus light, l'ISF.
Ouais, il est bien plus light, plus light, mais il va frapper des très grosses fortunes. On a vu Bill Gates qui sort du bois, un peu gêné, il fait de l'ironie, c'est pas forcément bien trouvé à ce moment-là. Oui. Mais on voit. Après, la question, c'est comment les républicains vont les attaquer là-dessus ? Ben, ils vont dire, c'est du socialisme, c'est anti-américain, un-American, c'est pas dans l'esprit des États-Unis. Ils vont les attaquer là-dessus. Et c'est vrai que, malheureusement, aux États-Unis... Et Laurie qui a écrit un livre sur le rêve américain, il y a toujours ce truc que peut-être moi un jour je serai milliardaire. Et si moi je suis milliardaire, ben, je ne veux pas payer cet impôt. Et ça, c'était une chose contre laquelle avaient déjà dû batailler les démocrates précédemment, qui avaient des programmes très à gauche. Mais ce qui est intéressant dans la campagne d'Elizabeth Warren, au-delà de cette question spécifique de l'ISF, c'est que c'est les idées qui sont en train de gagner à gauche. Je ne dis pas que c'est les bonnes idées, c'est les idées. Plus que les personnes.
Et elle monte ses idées, Laurie Kenton, parce qu'il y a un sujet maintenant qui monte aussi sur les inégalités, la montée des inégalités aux États-Unis. Et ça, c'est nouveau. Elles étaient acceptées aujourd'hui, elles le sont. Autrefois, elles le sont moins aujourd'hui.
Alors, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu, beaucoup de travaux d'économistes. Alors, il y a Piketty et compagnie, mais il y en a eu d'autres, Hachetti, etc.
Qui ont été... fois, c'est les Français qui dénoncent les inégalités aux États-Unis.
Pas uniquement, mais Bernie Sanders avait beaucoup fait campagne là-dessus parce qu'il y avait aussi tout le mouvement Occupy Wall Street qui avait fait tout un premier travail de sensibilisation sur lequel Bernie Sanders s'était greffé. Les 1%, c'était ça. Donc c'est quelque chose qui percole côté démocrate depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc c'est pas si nouveau que ça. Et en même temps, c'est une forme de populisme de gauche. On parlait de démanteler les grosses sociétés multinationales. On en revient à la période de Theodore Roosevelt autour de 1900 où on essayait de démanteler les trusts. Donc il y a quelque chose de finalement pas si nouveau que ça dans ces politiques-là. Et cette question des inégalités. Alors, c'est quelque chose qui va pas forcément faire recette parce qu'elles sont aussi au cœur du rêve américain, c'est-à-dire que on n'est pas tous égaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Et c'est accepté dans la mentalité, dans le logiciel américain.
Et c'est aussi pour ça qu'on s'étonne toujours du paradoxe de pourquoi est-ce que les petites gens de la Rust Belt, les petits ouvriers, vont voter pour ce milliardaire qui se dit mais parce que lui, il a réussi et que peut-être un jour, moi aussi, je vais réussir avec une invention géniale, avec un truc. Et moi aussi, peut-être, demain, à force de travailler dur ou à force de « je vais arriver à ce niveau-là ». Donc, ce n'est pas du tout de la jalousie, mais plutôt une forme d'admiration.
Anne Desine, est-ce que si ce programme très à gauche d'Elizabeth Warren traduit une radicalisation de la politique aux États-Unis, on a un Trump avec son style bien à lui, hein, et à gauche aussi, chez les démocrates, maintenant, on n'est plus du tout centriste, on est pour un ISF à la française.
Je pense qu'il y a une prise de conscience dans le camp Warren, mais aussi chez les démocrates, que le système capitaliste tel qu'il fonctionne aux États-Unis, en raison des lois, en raison des jurisprudences de la Cour suprême, a tellement déséquilibré le système qu'il n'est plus possible, en fait, à un Américain moyen de réussir. Alors, il n'en est pas encore totalement conscient, mais c'est impossible. En d'autres termes, les dés sont pipés. Et ce qui me paraît intéressant dans cette campagne, c'est qu'en fait, on a en parallèle l'idée, il faudra réformer le capitalisme, ne serait-ce que pour le sauver d'ailleurs, voilà, mais pour ça. Réformer le capitalisme, il faut qu'on puisse avoir accès aux clés du pouvoir de façon à empêcher les milliardaires d'injecter des sommes d'argent, de faire pression sur les membres de Congrès qui votent des baisses d'impôts, qui votent la dérégulation, etc. Et donc, on a la crise du capitalisme et la crise de la démocratie qui, d'après moi, sont très liées et qui cheminent de concert dans le programme démocrate.
Laure Mandeville, il y a moins de mobilité sociale aux États-Unis, ce qui menace l'American Dream, le rêve américain.
C'est ce qu'on dit, mais j'en suis pas complètement persuadée, parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples, quand j'étais aux États-Unis, de gens, justement, qui en une vie sont devenus des multimillionnaires, des gens qui étaient de milieu. J'en ai rencontré pas mal, alors qu'en France, je rencontre jamais des gens comme ça.
Des exceptions, quand même.
C'est sûrement des exceptions, mais il y en a. C'est vrai qu'on dit que cet ascenseur social ne fonctionne pas et que 70% je crois des gens qui sont nés dans la pauvreté aux États-Unis y resteront. Moi, ce qui me paraît intéressant aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, cette idée qu'il faut, on doit sortir de ce modèle de libre-échange absolu où tout ce qui est sans État, ça va marcher, etc., est en train de s'effondrer. Et ce qui est intéressant, ça s'effondre aussi à droite.
C'est-à-dire que vous avez
avec Donald Trump qui a été le premier, qui a été le premier exactement avec le commerce, mais aussi au sein du Parti républicain. Depuis quelque temps, on voit chez les intellectuels conservateurs l'idée qu'il faut qu'on réfléchisse à une meilleure répartition, etc. Donc, et vous avez un certain nombre de milliardaires de droite et de gauche qui se sont mis aussi à réfléchir sur ces questions-là, mais visiblement quand même, ils ne vont pas aussi loin qu'Elizabeth Warren, et donc elle peut effectivement leur faire peur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'une des difficultés pour les démocrates, ça va être de conjuguer ce populisme de gauche avec un discours peut-être plus conservateur sur les questions culturelles. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce qui émerge en Occident, c'est justement un courant où on aurait une politique plutôt à gauche sur le plan socio-économique, mais avec une sorte de retour plus conservateur sur les questions culturelles. Et je pense qu'un des problèmes d'Elizabeth Warren... socio-culturel. C'est-à-dire, je pense qu'Elizabeth Warren, par exemple, va avoir un problème sur l'immigration. Si elle veut récupérer cet électorat des États pivots, vous savez, qui sont partis chez Trump et qui étaient Obama avant, qui ont été Reagan, mais qui ont été Clinton.
Les six États swing states.
Voilà. Elle va avoir du mal, notamment avec ses positions sur l'immigration, où elle est quand même très, très à gauche.
Thomas Degaroff, vous vouliez ajouter un petit mot ?
Non, juste pour revenir en un mot sur les inégalités, on a appris là, il y a très peu de temps que désormais 1% des Américains possèdent 40% des richesses du pays. Ouais. 1%, 40%. Donc on est sur des inégalités insupportables. Et les jeunes qu'on voyait tout à l'heure, un sondage, je me souviens très bien, au moment de l'élection de 2016, vous aviez aujourd'hui une majorité de jeunes américains, électeurs, qui ne croient plus dans le capitalisme aux États-Unis. Et donc, il y a plein de gens qui disent, ou alerte rouge, y compris des défenseurs du capitalisme. Quand Anne dit qu'il s'agit aussi de sauver le capitalisme, ben, le capitalisme n'a cessé de se réinventer en permanence. Et là, il s'agit d'une nouvelle crise grave idéologique du capitalisme.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Assistons-nous à un remake de Dallas, ton univers impitoyable ?
Alors, aux auditions ou
avec les auditions, j'imagine cette question.
La vie politique américaine, elle est spectaculaire. C'est un spectacle. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pour les démocrates.
Donald Trump dans le rôle de JR.
En tout cas, Donald Trump, c'est celui qui fait les plus grosses audiences. Y compris peut-être assez dans l'air. Et du coup, c'est-à-dire que la machine médiatique américaine, elle se nourrit de Donald Trump. Elle a besoin de Donald Trump. Et c'est le piège dans lequel elle tombe. Les démocrates dont on parle, en fait, pourquoi est-ce que Biden est encore en tête ? Parce que parmi les démocrates, les gens ne connaissent que Biden, parce qu'il était le vice-président. On parle très peu des autres. Très peu. Nous, on est certainement ici beaucoup plus informés qu'un électeur américain moyen. Parce que, en revanche, Trump, ils le connaissent. Et donc, on parle de Trump tout le temps, y compris pour dire du mal. Mais peu importe, parlons de moi, en bien ou en mal, mais parlons de moi. Et le fait est que Trump, ça fait de l'audience, ça vend des journaux, et donc on parle de Trump tout le temps.
Pourquoi accuse-t-on Trump de corruption, Anne Desine, alors
Parce que c'est plus simple, comme on disait tout à l'heure, que de dire quid pro quo.
On a quid pro quo, ça veut dire un échange de bons procédés.
On a dit pendant trois semaines, donnant, donnant, ce n'était pas très clair.
Ça, on peut le comprendre. Voilà. Et corruption, c'est un mot
corruption,
fort.
Corruption, il a corrompu en proposant un pot de vin au le président ukrainien, en lui disant, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ton aide. C'est quand même assez clair. Si on écoute un tout petit peu les auditions, on comprend cela.
Et le mot corruption peut justifier une destitution.
Ah oui, oui, c'est un des chefs de mise en accusation.
Il y a un mot.
Non, Nixon, c'était plutôt abus de pouvoir, entrave au Congrès et violation des droits et libertés individuelles. Ce que fait Trump, d'ailleurs, quand il dit qu'il faut absolument que le lanceur d'alerte comparaisse, c'est une violation de ses droits puisqu'il est protégé par la loi sur les lanceurs d'alerte.
C'est aussi que ce qu'il veut, ce n'est pas quelque chose qui est pour le bien du pays, pour l'intérêt national collectif et qui n'est pas que lui, Donald Trump. Ce qu'il veut, c'est des infos sur son adversaire préféré, Biden, parce que affronter Warren, affronter quelqu'un d'autre, ça lui fait pas peur. Affronter Biden, ça lui fait plus peur. Et c'est vrai que quand on regarde tous les sondages en face à face, c'est toujours Biden qui est plus haut que les autres. Donc c'est vraiment un petit peu sa bête noire. Donc s'il peut déstabiliser Biden par son fils et etc. l'Ukraine, c'est pour ça qu'il veut faire ça. Donc c'est son intérêt personnel et pas du tout l'intérêt national. Et donc c'est pour ça que on parle de corruption, parce qu'il ne fait pas pression sur un gouvernement étranger pour favoriser l'intérêt des États-Unis.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas tellement... Je pense qu'il sait probablement que Hunter Biden n'a rien à se reprocher.
Le fils de Joe Biden.
En revanche, et dans toutes les auditions, ce qu'on voit apparaître, c'est que Trump a une exigence, c'est que Zelensky, le nouveau président ukrainien, annonce publiquement la chose. Parce que c'est que de la com. Si le président ukrainien annonce publiquement qu'il lance une enquête au sujet du fils de Joe Biden, alors là, retweet, regardez, les Ukrainiens eux-mêmes s'y mettent, etc. C'est ça qu'il veut, c'est la chose publique. Et d'ailleurs, un autre petit truc, le mot qu'on emploie de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est pas corruption, c'est extorsion.
Oui.
Ce qui est encore plus fort. Mais ça, l'extorsion, c'est pas du langage juridique, on l'utilise pas à la Chambre. Mais dans les réseaux sociaux, c'est le mot extorsion.
Des témoins entendus cette semaine, lequel aura le plus fait de mal à Donald Trump ?
Justement, moi, je suis pas certaine. J'ai l'impression que c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on a, il y a ce défilé de ces diplomates dont on a bien dit qu'ils sont justement bien sous tout rapport, etc. Mais est-ce que pour l'instant quelqu'un a vraiment frappé un coup qui peut l'atteindre? Personnellement, j'ai des doutes.
Le Trumpiste, il restera Trumpiste. Non, mais c'est pas ces hommes en costard sombre qui le font changer.
Absolument.
Le seul, c'est Trump. Quand il va tweeter pendant l'audition une espèce d'intimidation d'un témoin, qui fait du mal à l'enquête? C'est Trump lui-même. Et c'est en ça que son activité twitteresque, elle est dangereuse.
Pour justement, il va lui arriver des choses, a dit Trump au sujet de son ambassadrice Marie Jovanovic. Est-ce digne d'un président? On en revient au style.
Non, ce n'est pas digne. C'est même honteux parce que ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'audition, c'était un niveau supplémentaire, c'est qu'on voyait que cette femme était très affectée. De temps en temps, sa voix tremblait. Et donc, les démocrates, bien sûr, espéraient cela. Donc là, il y a le côté humain. Il a sacrifié la carrière d'une femme qui a donné 33 ans de sa vie, bon, qui est née en Ukraine, que les parents ont fui l'URSS, etc. Donc, c'est une belle histoire. Elle connaît bien le pays. Et puis surtout, elle a bien expliqué que pour elle, c'était important d'aider l'Ukraine à mettre en place son plan anticorruption parce qu'elle veut les aider à aller vers la liberté, la démocratie, parce qu'elle sait ce que c'est que de vivre dans un État non démocratique. Donc, bon, ça ne convainc que les démocrates. Mais je pense que...
non,
il faut être réaliste. Mais je pense que son émotion et le fait qu'elle a été sacrifiée sur l'autel de la diplomatie parallèle, parce que c'est bien ça. On avait d'un côté la politique étrangère américaine, dont l'intérêt est d'aider l'Ukraine à mettre en place un plan anticorruption, mais aussi que les Américains lui donnent de l'aide de façon à faire de la dissuasion vis-à-vis de la Russie, parce que ce n'est pas simplement la sécurité nationale de l'Ukraine, c'est quand même la sécurité nationale des États-Unis qui est mise en danger quand on affaiblit un allié aussi stratégique que l'Ukraine.
Là-dessus, honnêtement, les républicains peuvent répondre que, par exemple, pendant toute la période Obama, il y a eu un refus absolu de donner la moindre aide militaire à l'Ukraine, alors que depuis que Trump est arrivé, on leur a quand même fourni des armes létales,
etc. Chacun peut trouver ses arguments. Alors, question suivante. Le Capitole peut-il convoquer Donald Trump et l'auditionner devant des millions d'Américains avant les prochaines élections? Est-ce qu'il a le pouvoir ou il y a une immunité présidentielle qui fait que non, on ne peut pas traîner?
Il est dans ces conditions-là, je ne pense pas. Mais en revanche, il a une des prérogatives du Congrès, c'est de demander au président de donner un discours de l'état de l'Union. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu et qui arrive tous les ans. Mais dans le cadre des auditions, je ne suis pas certain, un, que ce soit possible, deux, que ce soit souhaitable.
Ce spectacle donné par la première puissance du monde n'est-il pas digne de Clochemerle? Ah oui.
Si, si, Clochemerle, Dallas, on ne sait plus quelle référence trouver. Mais c'est vrai qu'on est sidéré face à ça, hein, face à ce qui est en train de se passer. On en sourit, mais c'est grave parce qu'aujourd'hui, la puissance pivot du monde entier, ça reste les États-Unis.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 23h15. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau C'est dans l'air. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.